en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président, des belles paroles que vous venez de dire devant nous. J'en suis touché, elles étaient trop indulgentes, mais je les reçois comme un témoignage d'estime qui, venant de vous, m'est particulièrement sensible. Mesdames et messieurs, les membres de l'Institut, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres de l'Institut, mesdames et messieurs, partons, si vous le voulez, du plus élémentaire. Le gouvernement est le pouvoir exercé par le petit nombre sur le grand nombre. La démocratie est le pouvoir exercé par le grand nombre, en principe. Dans la pratique, cette démocratie ne peut donc être exercée que par délégation du grand nombre au petit. En interdisant la délégation, Jean-Jacques Rousseau a rendu la démocratie incompatible avec l'exercice du gouvernement. Merci. Depuis lors, les gouvernements, sans exception, ne cessent de se débattre dans cette contradiction et les élites politiques, presque sans exception, s'efforcent de légitimer la délégation. Les unes dans les démocraties libérales grâce à l'universalité du suffrage. Les autres dans les démocraties autoritaires par la substitution d'une fraction du peuple, qualifiée généralement de parti, au peuple lui-même par délégation de la souveraineté. Dans les démocraties libérales, le régime représentatif issu du suffrage universel tend dans les faits à confier la souveraineté du représenté aux représentants, comme l'a bien montré le grand juriste Carré de Malberg. Dans les démocraties autoritaires, le régime du parti unique tend à conférer la souveraineté du peuple au parti lui-même, de ce parti à son comité central et de celui-ci au secrétaire du comité central, comme l'a bien montré Léon Trotsky. Ainsi, dans les démocraties autoritaires, le culte de la personnalité et la dictature du secrétaire général ne sont qu'une déviation du principe de la délégation. C'est l'essence même du léninisme et c'est l'opposé même de la conception de la démocratie que se faisait Jean-Jacques Rousseau. Tout l'effort du régime parlementaire depuis la Révolution française jusqu'au milieu du XXe siècle a consisté à parachever à son profit la délégation de la souveraineté du peuple jusqu'à faire un crime de toute consultation du peuple en dehors de la délégation périodique du pouvoir à des représentants. C'est ainsi que le plébiscite, le référendum, l'élection directe du chef de l'État ont été considérés dans la vieille tradition républicaine comme des attentats à la démocratie représentative. Ce régime représentatif, dans sa pureté de cristal, qualifié par Odile Rudel de république absolue, a connu son apogée en Occident au début du XXe siècle, à la veille de la guerre de 1914. On peut dater de cette guerre l'entrée en crise de ce système avec le surgissement du communisme puis du fascisme qui l'un et l'autre reprochaient au système représentatif l'escamotage de la souveraineté populaire. C'était en apparence la revanche de Rousseau sur Montesquieu. Il est significatif que l'effondrement et la destruction de ces régimes qui se prétendaient populaires et qui n'étaient que populistes, pour ne pas dire totalitaires, n'a en rien permis à la démocratie représentative de restaurer son autorité. Sa crise s'est prolongée jusqu'à nos jours. Avec cette différence que dans les sociétés occidentales, la critique du système représentatif n'est plus désormais exercée par les partis politiques, mais par l'opinion publique elle-même. Nous y voilà. Enfin, pardonnez ce long préambule, mais je l'ai cru nécessaire pour poser correctement notre sujet d'aujourd'hui, à savoir la substitution progressive en œuvre sous nos jours de la démocratie d'opinion au régime représentatif. Dans un livre déjà ancien, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, j'avais proposé d'appeler doxocratie le régime mixte que nous connaissons aujourd'hui et vers lequel tendent la plupart des sociétés libérales. Je n'ai pas besoin de démontrer plus longuement cette montée de l'opinion publique dans la société politique. C'est l'objet même de votre programme annuel et vous ne l'auriez certainement pas choisi s'il n'avait pas eu ce caractère de centralité et je dirais presque d'urgence dans nos sociétés. Je veux souligner d'emblée néanmoins que le régime de la représentation et le régime d'opinion quand ils sont en concurrence dans les mentalités, eh bien, c'est le second qui, dans les cas litigieux, prend désormais le pas sur le premier dans la décision politique. Ainsi, lorsque des mouvements d'opinion, voire des manifestations, viennent contredire le programme d'une majorité nouvellement élue, c'est au premier désormais le plus souvent que l'on cède. On a vu François Mitterrand désavouer son ministre de l'Éducation, Alain Savary, lorsque celui-ci, en conformité avec le programme du candidat qui venait d'être élu, avait entrepris de mettre en œuvre un grand service public unifié de l'éducation nationale. Les manifestations, à ce moment-là, de l'école libre, et l'expression n'est pas neutre, elle n'est pas sans importance, eut raison du programme de François Mitterrand. Et c'est lui, celui-ci, en démocrate pragmatique qu'il a toujours été, qui en tira les conséquences, c'était donner raison à ce que l'on pourrait appeler le principe de Gogel, du nom du regretté François Gogel, grand connaisseur de la chose politique française, notamment sous la Troisième République. Et il affirmait que lorsque deux scrutins, et j'ajouterai deux manifestations, entrent en concurrence, c'est le plus récent ou la plus récente qui l'emporte. Ce que l'on n'appelait pas encore le présentisme ne s'applique plus seulement au scrutin, mais à ces trois grandes formes d'expression de la démocratie moderne que sont le suffrage, le sondage d'opinion, la manifestation. J'y reviendrai pour terminer. Je note encore, et ce sera assez pour souligner l'importance du phénomène, que la cote des hommes politiques est désormais considérée comme un instrument de mesure légitime en concurrence avec l'élection et de manière beaucoup plus permanente. Une bonne partie du comportement de la classe politique, du président de la République au plus modeste des députés, est désormais commandée par ce souci de plaire à l'opinion et de se soumettre à ses oscillations. Cela n'est inscrit dans aucun article de notre Constitution, et pourtant c'est là un article fantôme qui est devenu obsessionnel. Ipsos et sophres, tu honoreras afin de vivre paisiblement. Non que les hommes politiques doivent se sentir obligés de suivre aveuglément et servilement l'opinion publique. Le même Mitterrand que je citais il y a un instant, qui a capitulé en 1986 devant les manifestations de l'opinion à propos de l'enseignement privé, est pourtant celui qui, dès son arrivée au pouvoir en 1981, avait imposé, et cette fois-ci conformément à ses engagements électoraux, la suppression de la peine de mort, alors que la majorité des Français lui demeurait alors favorable. Il arrive donc que l'obstination du pouvoir et le vote de la loi parviennent à faire changer d'avis l'opinion elle-même, et c'est puisque à la fin elle est devenue elle est devenue hostile à la peine de mort. Quand donc l'homme politique a-t-il le devoir de céder à l'opinion ? Et quand donc a-t-il celui, non moins impérieux, de lui résister au nom de ses convictions ? C'est dans chaque cas particulier, il n'y a pas de règle absolue. C'est dans chaque cas particulier le choix entre l'obéissance à la majorité et l'obéissance à la conscience, et c'est là que réside et continuera de résider l'intelligence, le mérite et la vertu de l'homme politique. J'en reviens à mon argumentaire. Une des grandes différences entre le suffrage et l'opinion, c'est que la parole dite par le premier est censée rester valable pour une durée déterminée et fixée à l'avance, tandis que la seconde, parce qu'elle est instantanée, est éphémère. La première est fille de Parménide, la seconde d'Héraclite. La première est une écluse, la seconde, le courant même du fleuve. Comme si, contrairement à la lettre de la Constitution, l'opinion était un suffrage permanent, au verdict constamment renouvelé. Comment en effet contester que le contrôle permanent de la température et de la tension du malade, ou pour être moins pessimiste, du degré d'énergie et de vitalité du sujet, sont préférables à des mesures largement espacées dans le temps et devenant rapidement obsolètes au gré des événements. Le présentisme ne signifie pas ici ou seulement instantanéité, mais durée, car le meilleur critère de la réalité du pouvoir n'est pas son intensité, mais nous le voyons aujourd'hui avec notre Constitution, la permanence. C'est ici le lieu de souligner que le passage du système représentatif à la doxocratie n'est pas seulement affaire d'évolution des mentalités. Celles-ci ne s'imposèrent à l'homme politique que lorsque les moyens techniques de leur exercice ont été mis au point. Et ces moyens techniques s'appellent technique des sondages, mais plus encore aujourd'hui Internet, sous toutes ses formes. La démocratie d'opinion est d'abord fille de la révolution technologique, informatique, comme naguère la démocratie parlementaire a été dans une large mesure fille du chemin de fer, puis de l'automobile. Dès lors, la question qui se pose à la société tout entière n'est pas de savoir si elle est favorable ou hostile à la démocratie permanente par rapport à la démocratie périodique du passé. Elle est de savoir, puisque ces manifestations existent, comment en tenir compte et mieux encore, comment les faire entrer dans un cadre institutionnel. Concluons sur les effets de la pression de l'opinion publique sur la pratique gouvernementale. La plus exigeante a consisté dans l'application au cours d'un mandat d'une durée déterminée d'un programme élaboré par un parti et ratifié par le corps électoral au cours d'une élection générale. La séquence parti, programme, élection, exécution était au cœur de la pensée du Front populaire, elle était aussi au cœur de la pensée de Pierre Mendès-France et de son gouvernement de législature. Naturellement, les aléas de la conjoncture, qu'il est impossible de prévoir à l'avance, viennent souvent contredire l'application en bon ordre du programme et permettent aux frondeurs de toute farine de crier à la trahison. Mais nous n'en sommes plus là. L'opinion publique est devenue comme l'ombre portée du corps social sur le mur de la politique, et cela de façon permanente. Les critiques désormais ne jugent plus un gouvernement exclusivement sur son bilan, en le comparant à ses promesses, mais sur sa manière de réagir au jour le jour à des problèmes nouveaux et inattendus. La tyrannie du court terme entraîne le despotisme du public à courte vue. problème qu'avec sa vertigineuse lucidité, Jean-Jacques Rousseau avait parfaitement pointé du doigt dans un passage de l'Émile que je vous cite. La domination même est servile quand elle tient à l'opinion, car tu dépends des préjugés de ceux que tu gouvernes par les préjugés. Pour les conduire comme il te plaît, il faut les conduire comme il leur plaît. Ils n'ont qu'à changer de manière de penser, il faudra bien par force que tu changes de manière d'agir. D'ailleurs, dès la deuxième phrase du contrat social, comme l'avait très bien souligné dans son magnifique commentaire Bertrand de Jouvenel, Rousseau avait déjà posé le problème, avait noté le problème, qu'elle se croit maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment, après cela, concevoir une volonté générale qu'il proclamait par ailleurs infaillible? C'est le problème de Rousseau. Mais, malheureusement, c'est devenu le nôtre. La démocratie d'opinion a au moins un avantage sur la procédure électorale, c'est qu'elle est plus précise et elle est plus explicite. Lorsque je vote pour un homme et contribue à faire de lui un député, voire un président de la République, je suis soumis et d'une certaine manière victime de la procédure du vote, et par là même censé approuver toutes ces options, ce qui est rarement le cas. Si j'approuve la grande majorité de celles-ci, je suis censé approuver aussi celles que je récuse. Le vote pour un homme, c'est nécessairement un amalgame de positions diverses et par conséquent, le blanc-seing accordé à l'élu. Pour reprendre l'exemple évoqué plus tôt, il y avait bien en 1984 une majorité pour conduire François Mitterrand à l'Élysée, mais non, au vu de la suite, pour approuver ses options en matière de laïcité. Les sondages d'opinion permettent de distinguer. Le vote pour un homme est, comme on dit, un vote de confiance, et c'est par là même un vote bloqué. Par conséquent, il n'est pas douteux que les procédures de consultation de l'opinion sont meilleures conductrices de la volonté générale dans toutes ses nuances et dans toutes ses ambitions que le vote en faveur d'un individu, voire d'un parti. À ce point de notre réflexion, on ne peut négliger plus longtemps une donnée trop générale pour être entièrement fortuite, à savoir la coïncidence de deux phénomènes, celui de la montée de l'opinion publique dans les sociétés libérales dont nous parlons, et celui de la personnalisation croissante du pouvoir. N'y a-t-il pas là une contradiction majeure, en raison même de ce que je viens d'avancer, c'est-à-dire la répugnance de l'opinion publique à l'égard de tout ce qui, dans les mécanismes de la démocratie représentative, s'apparente à un vote à l'aveugle, intuitu personae, en faveur d'un individu? Je ne le crois pas, et voici pourquoi. Ce que les sociétés modernes reprochent le plus au système représentatif de type parlementaire, c'est son caractère hermétique, l'impossibilité de communiquer directement avec lui une fois qu'il est formé. Il est très difficile de s'adresser personnellement à une assemblée. Il est très difficile de s'adresser à une assemblée, de l'interpeller. Or, ce droit à l'interpellation permanente est une des caractéristiques majeures, qu'on se réjouisse ou qu'on le déplore, de la démocratie moderne. Le pouvoir collectif tend à devenir un pouvoir anonyme, pour ne pas dire un pouvoir clandestin. On rend cette interpellation possible et même naturelle depuis le début, depuis le célèbre Charlot des Sous des cortèges syndicaux de la Ve République commençante, ou encore récemment Emmanuel Macron, d'autres, Nicolas Sarkozy, ont été l'objet. Les exemples sont nombreux de ces épisodes parfois pittoresques qui restent dans les mémoires. et la manière assez verte dont les présidents interpellés ont répondu, si elle a beaucoup déplu à la classe politique, a un peu moins déplu, me semble-t-il, à l'opinion elle-même. Je me souviens encore de la façon dont une sorte de syndicat de prostituées qui s'était constitué à la veille de 1968 s'était prononcé en faveur, sa représentante s'était prononcée en faveur du général de Gaulle et avait dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée, « De Gaulle, au moins, on peut lui parler, et puis au moins, lui, il ne fait pas de politique. » Une démocratie élitiste, voire censitaire, s'accommode assez bien de certains anonymat du pouvoir. Parce que tous ses membres en connaissent les mécanismes, et de près ou de loin, ils prennent part. Plus au contraire, on s'avance vers une démocratie de masse, vers une démocratie participative, une démocratie du quotidien. Et plus le pouvoir a besoin d'être incarné pour apparaître responsable. Que conclure de cela ? Qu'il y a, entre la démocratie d'opinion et le régime présidentiel, une sorte de connivence cachée, et pourtant incontestable, dont les États-Unis ont donné l'exemple bien avant qu'ils ne traversent l'Atlantique. Les anarchistes, qui prétendent se défier de l'individu, ont-ils réfléchi au fait que la démocratie directe dont ils se réclament est nécessairement une démocratie personnifiée? Je n'ai encore pas vu beaucoup d'anarchistes, ni même de libertaires, essayer de répondre à cette question. Certes, je n'ai garde de confondre la doxocratie dont je parle avec cet oxymore que l'on appelle la démocratie directe. Pourtant, le grand juriste et politologue Georges Burdeau, dont je m'honore d'avoir publié jadis un livre essentiel sur la démocratie, c'est son titre, il affirmait que sur le trajet qui va de la démocratie gouvernée du passé à la démocratie gouvernante de l'avenir, ce sont ces termes, il existe une étape intermédiaire destinée à perdurer longtemps, qu'il appelait la démocratie consentante. Cette démocratie consentante, dont le système présidentiel est un des avatars majeurs, elle va nécessairement de pair, donc, avec la personnalisation du pouvoir. Les épisodes successifs de la vie politique en témoignent, tandis que la classe politique est restée fidèle au système représentatif, et qui est comme son levain et comme sa raison d'être, la population tout entière est, quant à elle, fermement attachée à l'élection du président de la République au suffrage universel, approuvé par le peuple français en 1962. Soyez même assurés que s'il n'avait cessé de craindre un haut le corps de l'opinion, le cartel des noms de l'époque se reconstituerait instantanément pour abolir cette pièce maîtresse de la Ve République. Pour la clarté de l'exposé, j'ai fait jusqu'ici comme si l'opinion confondait, comme si l'opinion se confondait avec la volonté générale. Ce n'est pas le cas. Je n'ai garde de confondre l'IFOP avec le contrat social et Louis Harris avec Jean-Jacques Rousseau. Comme la plupart des grands concepts politiques, telle la classe, le peuple, la nation, la démocratie, le pouvoir, et j'en passe, l'opinion est un mot vague, un mot valise, qui véhicule de nombreuses acceptions. Mais de plus, c'est un mot contradictoire qui désigne tantôt ce qu'il y a de plus personnel dans le jugement, tantôt au contraire ce qu'il y a de plus impersonnel. C'est mon opinion et je la partage, déclare le Joseph Prud'homme d'Henri Monnier, en une redondance restée célèbre, mon opinion, c'est l'expression même de ma personnalité en ce qu'elle a d'unique. Mais ajoutez-y l'adjectif public et l'opinion devient le plus impersonnel, le plus insaisissable, en même temps que le plus envahissant des phénomènes. On est tenté de lui appliquer ce que le Basile du Barbier de Séville dit de la calomnie. D'abord, un léger bruit, rasant le sol comme une hirondelle avant l'orage, pianissimo, murmure et file. Telle bouche le recueille, et piano, piano, vous le glisse en l'oreille adroitement. Il germe, il rampe, il chemine, et devient, grâce au ciel, un cri général, un chorus universel de haine et de proscription. Qui donc y résisterait ? Cela, il le dit de la calomnie, je me demande si on ne pourrait pas l'appliquer, mutatis mutantis, à l'opinion publique. C'est tout le paradoxe de cette opinion. Mon opinion est ce qui me distingue d'autrui, dont le martèlement infatigable finit par devenir ce qui me confond avec lui. Grâce à mon babillage, j'ai contribué à produire quelque chose qui n'appartient à personne, mais qui s'impose à chacun, l'obsède et le tyrannise. Il y a plus et autre chose dans l'opinion publique que l'addition des opinions individuelles. Mais n'est-ce pas aussi le cas de cette volonté générale dont Rousseau nous dit, il en dit beaucoup de choses, mais il nous dit notamment qu'elle est plus que la somme des volontés particulières. Aussi n'est-ce pas par hasard que c'est lui, toujours Rousseau, qui a introduit dans le vocabulaire courant l'expression d'opinion publique. L'opinion personnelle est privée. En règle générale, son rayonnement ne dépasse guère le cercle des intimes, à la différence de l'opinion publique. Mais le fait nouveau, aux conséquences immenses, c'est qu'Internet a donné à chacun, aujourd'hui, le pouvoir de s'adresser à la collectivité tout entière. Si cette expression demeure personnelle, tout en élargissant l'audience de chacun, on ne peut que s'en féliciter. Mais quand elle choisit l'anonymat, c'est rarement pour de bons motifs. Elle devient ce chorus universel de haine et de proscription dont parlait Beaumarchais. Paul Bourget, à la fin du XIXe siècle, avait appelé le suffrage universel la lettre anonyme de la démocratie. Mais le bulletin de vote est la plus courte des lettres anonymes. Il ne calomnie personne et se borne à indiquer des préférences. Que dirait Bourget devant ce flot ininterrompu d'invectives, d'insultes, d'insinuations qui déferlent à propos de tout et de rien sur ce que l'on nomme improprement les réseaux sociaux et qu'il faudrait appeler les réseaux antisociaux. Personne n'est à l'abri de ce torrent d'immondices qui donne sur la nature humaine des aperçus effrayants. Aucune personne, aucune parole, aucune action n'échappe désormais au parti pris d'abaisser, de salir, voire de déshonorer. Comme si on avait inventé une nouvelle boîte de Pandore comparable à celle où Zeus avait enfermé toutes les formes de la misère humaine. Il est difficile, après avoir passé une demi-journée sur les prétendus réseaux sociaux, de croire aux vertus d'une démocratie directe, faite de l'expression spontanée et honorable des opinions anonymes. Car il ne s'agit pas seulement d'opinions basses, ni même de ce que l'on a préféré appeler dans les fake news, non pas dans la langue de Pascal et de Voltaire, mais dans une langue importée. Il s'agit d'un conditionnement des esprits à des croyances collectives irrationnelles. Derrière la prétendue opinion publique, il y a l'opinion clandestine, la partie inavouable de notre esprit. Ce cerveau reptilien qui croit dur comme fer au protocole des sages de Sion, à la main des Juifs dans l'attentat du World Trade Center. Le mal, dit Spinoza, c'est ce qui se fait sans joie au fond de l'âme ou au fond de l'opinion. Soulignons ici un paradoxe. Il existe dans les mentalités contemporaines un culte du secret, une valorisation du non-dit, alors que les moyens modernes d'investigation exposent le citoyen à une transparence que Denis Oliven et Mathias Cisportis qualifient dans un livre récent de « mortelle ». Pour les besoins de la police, ou plus souvent encore ceux de la publicité, chacune de nos particularités, chacun de nos gestes sont auscultés, répertoriés, enregistrés, exploités. Nos goûts, nos déplacements, nos maladies, notre train de vie, nos amours, tout cela est désormais connu non seulement des autorités, mais de ce gigantesque réservoir de données que sont Apple, Facebook et consorts. Souriez, vous êtes filmé. Parlez, vous êtes fiché. Marchez droit, vous êtes fliqué. Les big data sont, nous disent les auteurs, le nouveau visage de Big Brother. Faut-il voir dans le complotisme qui sévit aujourd'hui dans les opinions publiques le contre-coup, voire la contrepartie de ce pouvoir souterrain qui s'infiltre partout sans jamais s'avouer ou accepter aucun contrôle. Permettez aux journalistes que j'ai voulu être, entre autres choses, ma vie durant, de souligner la fonction particulière et essentielle du métier dans un tel contexte. Il ne va pas en diminuant, il va en augmentant. Un journaliste n'est pas nécessairement mieux informé ou plus talentueux que ces éditorialistes anonymes ou improvisés que l'on rencontre sur la toile. Sa raison d'être, son honneur, c'est de se reconnaître publiquement responsable de ce qu'il dit. Sa signature n'est que secondairement la marque de sa notoriété. C'est d'abord de sa responsabilité qu'il s'agit. Si le journalisme, selon Chateaubriand, c'est l'électricité sociale, en revanche, les réseaux d'Internet sont les égouts à ciel ouvert de notre humanité. C'est ici que le mot d'opinion retrouve tout son sens. Qu'est-ce donc qu'un journal d'opinion ? S'agit-il de celle de ses rédacteurs ou de celle de ses lecteurs ? Ça n'est jamais tout à fait précisé. En vérité, cette opinion est une rencontre, une alchimie, faite de la confrontation permanente de l'écrivain ou du journaliste et de son lecteur, chacun d'eux s'ajustant aux propositions et aux attentes de l'autre. C'est à cette condition-là que le même Chateaubriand n'hésite pas à affirmer dans sa lettre à un pair de France en 1824. Que le gouvernement n'est pas seulement responsable devant la Chambre, mais devant la presse, et qu'il doit se retirer s'il est désavoué par l'opinion. Dès la monarchie selon la charte, en 1816, il affirmait que c'est l'opinion publique qui est la source et le principe du ministère. Au vu de ce qui se trame, de ce qui fermente derrière l'expression publique des opinions anonymes, il y a là de quoi frémir. Mais si l'opinion ne fabrique pas toujours de fausses nouvelles, la question se pose de savoir si elle n'est pas elle-même le résultat d'une fabrication artificielle. Tel est le point de vue bien connu, développé par l'un des plus éminents sociologues français contemporains, Pierre Bourdieu, dans deux articles restés célèbres. Comme ces gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour, ça c'est pas du Bourdieu, c'est du La Rochefoucauld, beaucoup de gens n'auraient jamais eu d'opinion sur une multiplicité de matières si on ne les avait jamais interrogés à leurs propos. Bourdieu n'a pas de mal à démontrer que les opinions des gens sont souvent des artefacts. Il y a bel et bien dans nos sociétés une fabrique de l'opinion. Mais pourquoi faudrait-il donc révoquer en doute toute opinion sous prétexte qu'elle serait l'objet d'une élaboration sociale ? À ce compte, la patrie, la classe sociale et, à ce que j'entends dire aujourd'hui, le sexe lui-même ne sont pas des choses naturelles et innées, mais des objets socialement construits. L'homme est pour partie le produit de l'éducation qu'il a reçue, la belle affaire et la grande nouveauté. Certes, il relève du travail du sociologue d'examiner les conditions de production des objets sociaux. Mais faut-il pour autant en récuser l'existence ou la valeur ? Je n'ai jamais entendu dire, au tenant de la théorie du genre, que le sexe, ou mieux encore le sexuel, n'existe pas. Au contraire, il est désormais partout. C'est dire, en d'autres termes, que quelle que soit sa nature, bénéfique ou délétère, l'opinion publique est un phénomène qui n'est pas nouveau. Il n'y a pas de société la plus autoritaire, la plus primitive, sans opinion. Mais quelque chose qui s'impose comme une donnée dont l'importance va croissant dans les sociétés démocratiques. Qu'elle soit à l'état naissant ou qu'elle fasse l'objet d'une fabrication délibérée, elle ne saurait à elle seule décider de l'action publique et du cours de la politique. Elle ne détermine pas l'action, mais elle arbitre de façon de plus en plus décisive entre les options que le personnel politique ou la conjoncture historique lui propose. Qu'elle constitue un élargissement de la délibération démocratique ou une menace pour les libertés individuelles, nous avons vu qu'elle était les deux à la fois. Cette opinion est une donnée dont la connaissance entre impérativement dans les choix de l'homme politique. Si en 1938, comme on l'a démontré depuis, Édouard Daladier avait su qu'une majorité de l'opinion publique inclinait à la résistance au diktat d'Hitler, peut-être n'eût-il pas signé les accords de Munich, et ça aurait été mieux ainsi. Si à la veille du 18 juin 1940, Charles de Gaulle, qui ne pouvait ignorer la tendance de la majorité de l'opinion en faveur de l'armistice, avait vu cette tendance massivement confirmée par les chiffres d'un sondage ad hoc, peut-être, bien qu'il fût Charles de Gaulle, peut-être eût-il hésité à lancer un appel, et cette fois-ci, c'eût été une tragédie. Car l'opinion peut être psychologiquement impérieuse, elle n'est jamais juridiquement contraignante, et c'est cela qui la distingue du suffrage. Considérons donc les trois formes d'expression qui s'offrent au peuple en démocratie, avec les caractéristiques de chacune d'entre elles. Ce sont le droit de vote, comme je l'ai dit, le droit de manifestation, l'opinion publique. J'entends par manifestation toutes les formes collectives et délibérées d'expression publique destinées à se faire connaître et à influencer le pouvoir et aussi l'opinion publique. Ainsi, le défilé, le meeting, le sitting et aujourd'hui de plus en plus fréquemment la perturbation délibérée de l'ordre public, telle que le barrage de route, les opérations escargots, il y en a eu une encore ce matin, les destructions de mobilier, etc. Si maintenant on associe à tour de rôle deux de ces trois termes, suffrage, opinion, manifestation, pour les opposer au troisième, on parvient au tableau suivant. Opinion publique et suffrage, suffrage universel, sont universels, tandis que la manifestation, elle, est partielle, voire catégorielle. Toutes deux sont en outre anonymes, tandis que la manifestation, comme son nom l'indique, et par cette manifestation, je déclare publiquement mon point de vue ou ma revendication. En revanche, suffrage et manifestation sont des formes d'expression sommaires, tandis que l'opinion, je l'ai déjà souligné, est discursive, multiforme. C'est elle qui permet de passer de la démocratie monosyllabique, du référendum ou uninominal de l'élection à un langage politique articulé. De plus, suffrage et manifestation sont des événements ponctuels alors que l'opinion est permanente. J'ajoute une considération supplémentaire. Alors que le suffrage est une photographie figée des volontés à un moment donné, l'opinion publique est une matière en constante évolution, faite du flux permanent des opinions privées. Elle est une composante essentielle de la démocratie, c'est-à-dire de la confrontation, du brassage. Pour le dire d'une formule, l'opinion publique, c'est l'opinio opinans, le suffrage, c'est l'opinio opinata. Enfin, le suffrage est le seul qui soit, à l'heure actuelle, institutionnel, tandis que l'opinion, comme la manifestation, sont à la disposition de qui veut y avoir recours. Au bout du compte, le suffrage exprime l'essence de la démocratie représentative, tandis que la manifestation, on dit aussi dans ce cas-là la rue, les piazze en italien, prétend à la démocratie directe. L'opinion dans ce tableau occupe une position intermédiaire, elle est toujours là et se présente comme un recours à la fois à la confiscation du pouvoir opérée par la démocratie représentative, mais aussi à la violence et la tyrannie d'une minorité inhérente à la démocratie manifestante. C'est pourquoi, comme on l'a souligné, son rôle dans la politique réelle ne cesse de croître, quand bien même il n'est pas reconnu officiellement. L'opinion publique est la clé, dit Abraham Lincoln. Avec l'opinion publique, rien ne peut faillir. Sans cela, rien ne peut réussir. Celui qui influence les opinions est plus important que celui qui applique les lois. Il y a là une affirmation que je rapproche de celle de Chateaubriand que je faisais tout à l'heure. Cette immense confiance, avant que l'opinion publique devienne ce que nous savons aujourd'hui, à ce qu'elle pouvait être et à son rôle dans la démocratie. L'opinion publique, avec la multiplication des sondages et des formes d'expression que permet Internet, cette opinion publique, dis-je, est devenue le passager clandestin de nos institutions. Il y a là une situation anormale qui ne peut se prolonger indéfiniment sans de graves périls pour la démocratie elle-même. Dans une société libérale, l'extension continuelle des libertés est chose naturelle et bonne, mais on ne peut se dissimuler qu'elle entraîne parfois des risques pour la sécurité des personnes. De même, toute extension des moyens d'expression, qui est une chose excellente, accroît les risques d'insultes, de diffamation, voire de chantage. Nous avons vu comment ce merveilleux instrument de communication et d'information qu'est Internet pour l'opinion publique ou pour l'expression publique d'opinion privée peut, si l'on y prend garde, abaisser le débat et donner champ libre à la voix aigre des sycophantes, pour citer encore une fois Chateaubriand. Les moyens techniques d'empêcher la transformation de la démocratie d'opinion et qui se mettent en place sous nos yeux en un véritable harcèlement populiste, ces moyens existent. Il serait temps que l'on mette les grands réseaux sociaux devant leurs responsabilités et celles de leurs usagers. Mais il faut aller plus loin. Comme hier, l'instauration du suffrage universel, l'extension actuelle de l'empire de l'opinion fait naître la crainte qu'elle favorise l'extrémisme et la passion sous toutes ses formes au détriment de la mesure et de la raison. Or, l'expérience démontre le contraire. L'expérience a montré depuis le 19e siècle, dans le cas du suffrage universel, pour lequel on redoutait la même chose, eh bien, qu'il est devenu le meilleur rempart contre les dictatures et les apprentis dictateurs. Il y a des exceptions. Je n'oublie pas que Hitler est arrivé au pouvoir par les voies du suffrage universel et de la démocratie parlementaire. Mais cela parce que l'opinion ne se suffit pas à elle-même. La démocratie doit redevenir ce qu'elle a cessé d'être aujourd'hui, une grande entreprise d'éducation. Démocratie, c'est démopédie, disait Proudhon. Il n'y a d'éducation démocratique de l'opinion comme du suffrage que par le moyen de l'exemple et de la vertu. La vertu n'est pas, comme j'ai entendu dire récemment par l'un de nos plus brillants hommes politiques, une solution alternative au marché. C'est Mélenchon. C'est une obligation, je dis moi que c'est une obligation qui est faite à l'homme politique, quel que soit le régime économique constitutionnel, est l'un des ingrédients nécessaires de la démocratie. Nous savons cela depuis Montesquieu. Aussi bien, les plus éminents de nos hommes politiques ont été de véritables instituteurs de la démocratie en alliant un respect scrupuleux du suffrage universel à une résistance déterminée aux entraînements de l'opinion. C'est ainsi qu'en 1870, Léon Gambetta prend la tête d'un gouvernement de guerre quand il sait pertinemment que l'opinion veut la paix à tout prix. Que Léon Blum, en 1940, oppose son refus des pleins pouvoirs à Pétain quand la majorité de son propre groupe parlementaire socialiste est d'avis contraire. Qu'en 1940, Charles de Gaulle renouvelle, et avec quel éclat, le geste de résistance à l'ennemi de Gambetta. Qu'en 1945, Pierre Mendès-France préfère quitter le pouvoir plutôt que de renoncer à la rigueur financière et qui était nécessaire. Que sur la peine de mort, je l'ai déjà dit, François Mitterrand préfère honorer ses propres engagements plutôt que se conformer à l'opinion. Le problème de la démocratie moderne est donc le suivant. Trouver le moyen de gouverner avec l'opinion, malgré ses orientations, et tout en résistant à ses sautes d'humeur et à ses foucades momentanées. L'opinion n'est pas un quatrième pouvoir, elle est l'ombre portée des trois autres, c'est pourquoi il faut lui reconnaître une existence au sein des institutions. Le moyen existe, il est pratiqué dans certains pays, au premier chef desquels la Suisse, c'est le référendum. Ça suppose que soient résolues les questions relatives à son organisation dans un pays comme la France, propre à personnaliser toute question politique, à faire des personnalités, comme on disait à l'école. Quelles questions méritent d'être posées? Sous quelle forme? À quel moment? De la réponse à ces difficultés dépend la chance d'instaurer en France un moyen d'institutionnaliser l'opinion. Pour éviter le risque permanent de voir le gouvernement transformer le référendum en plébiscite et de voir l'opposition le transformer en motion de censure, il convient de recourir à un pouvoir neutre qui serait maître du sujet, du moment et de la procédure. Afin de ne pas multiplier les instances, on peut imaginer que le Conseil constitutionnel, moyennant une redéfinition de son rôle, peut-être de sa composition, de ses instruments d'action, puisse être ce pouvoir neutre. À ces conditions, ce serait le moyen enfin trouvé de matérialiser l'introuvable volonté générale. L'institution du référendum, petite revanche de Rousseau sur Montesquieu, hommage aux origines helvétiques de l'auteur du contrat social, permettrait peut-être de réaliser la synthèse entre ces deux piliers de notre pensée politique. Il me faut maintenant conclure, et je vais le faire très brièvement, en laissant la parole à deux écrivains qui, bien avant les instituts de sondage, Internet, la notation des hommes politiques à la Bourse des valeurs, expriment à deux siècles de distance la même idée qui est au cœur de mon intervention. La Bruyère, l'opinion publique est une juridiction que l'honnête homme ne doit jamais reconnaître parfaitement et qu'il ne doit jamais décliner. Et enfin Balanche, ce contre-révolutionnaire progressiste, comme l'appelle Paul Bénichou, que l'on désigne généralement comme l'ami de Juliette Récamier et de Chateaubriand, mais qui mérite beaucoup davantage, qui mérite d'être considéré en lui-même, dans son essai sur les institutions sociales, il dit, c'est son dernier mot, c'est aussi le mien, l'opinion est devenue cette force modifiante et extensible qui est destinée à remplacer la parole traditionnelle. Autrefois, il suffisait de gouverner avec l'opinion. À présent, il faut gouverner par elle, sous peine de la laisser gouverner elle-même, ce qui constituerait une véritable anarchie. Je vous remercie.